Radio Fribourg,
c'est que du bonheur avec Caroline.
Plaisir d'accueillir aujourd'hui Corinne Emonet et Irenka Krohn-German. Bonjour à toutes les deux. Je ne sais pas si je le dis correctement, Irenka.
C'est parfait.
C'est parfait. Oui. Présentation de vous, mesdames, avant de rentrer dans le vif du sujet. Corinne Emonet, vous êtes experte en RH, coach, et puis vous êtes très active dans l'association Part-Time Optimization, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça.
Voilà.
Merci. Bonjour.
Et bonjour. Ouais. Irenka, quant à vous, eh bien, vous êtes cofondatrice de l'association Part-Time Optimization et vous êtes aussi cofondatrice d'une plateforme de mise en partenariat de job, WeJobShare.SARL, c'est ça ?
WeJobShare.ch, oui.
.ch, ouais.
SARL.
C'est juste parce qu'en fait, ben voilà, c'est comme il faut des SA, des SARL, c'est voilà. Après, on rentre dans les détails des créations d'entreprise. Irenka, c'est pas la première fois avec vous qu'on a l'occasion de parler de job sharing. Et aujourd'hui, on vous accueille tout simplement parce qu'un ouvrage vient de sortir, Le partage d'emploi, job sharing, les nouvelles opportunités, les défis du travail. Avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce qui fait que vous êtes comme ça depuis plus de deux ans, avec votre bâton de pèlerin, en train de revendiquer la possibilité de partager un travail ?
Parce que je suis pleinement convaincue. Ça fait depuis presque, je crois maintenant, 9 ans que je travaille en job sharing dans un autre domaine, dans le domaine international, au SECO. Et en parallèle, j'ai pu donc créer cette association avec ma partenaire en job sharing et avec un autre partenaire plus tard pour l'entreprise. Je crois que c'est un mouvement sociétal, ça va beaucoup plus loin qu'un simple modèle de travail, on en parlera durant l'émission.
Oui, parce qu'il y a des sacrées évolutions.
Et il y a une évolution qui est très forte au niveau du domaine digital surtout, et les nouvelles générations qui surtout aspirent à des fonctionnements comme ça. Et on peut donner quelque chose en présentant des modèles qui sont réalisables et qui permettent d'avancer aussi
dans cette réflexion,
tout à fait, une mouvance de l'économie.
Quant à vous, Corinne, qu'est-ce qui fait que le job sharing vous a interpellé ?
Oui, alors c'est en fait lorsque j'ai dans ma vie privée, où j'ai eu la naissance de ma petite fille, j'occupais donc auparavant des postes à responsabilité intéressants. Et là, la question était intervenue en fait, mais comment en fait continuer à travailler à des postes intéressants à responsabilité, mais à temps partiel. Mm-hmm. Donc le job sharing est devenu une évidence, et c'est là où je me suis en fait renseigner ce qui existait en Suisse. Et là, j'ai donc été en relation avec l'association PTO et Irenka et d'autres membres de l'association. Et je dirais par passion, en fait, j'ai rejoint l'association pour en fait faire cette promotion du job sharing tant au niveau du grand public que des entreprises.
Quand on parle de job sharing, on a tout de suite l'idée que ça concerne principalement les femmes. Est-ce que c'est le cas, Irenka ?
Ça change beaucoup. J'étais invitée par des grandes firmes qui nous invitent pour présenter le modèle. Et ce sont les hommes qui viennent souvent chez nous. C'est clair que le temps partiel touche beaucoup les femmes en Suisse. Vous savez qu'un tiers du marché actif en Suisse est à temps partiel, dont 60% des femmes. Et beaucoup de femmes hautement qualifiées. Donc, c'est vrai que la première donne, ce sont les femmes. Mais les hommes s'y intéressent beaucoup parce qu'ils ont aussi envie de toucher à différentes choses. Et le top sharing, donc les postes à responsabilité en partage d'emploi, intéresse particulièrement les hommes. Et notre site diffuse différents témoignages qu'on voit de différentes firmes. On voit des hommes qui sont soit à deux hommes ensemble, hommes et femmes. Donc, ça touche vraiment une cible intergénérationnelle, toutes les générations confondues, et les hommes et femmes confondus.
Ça peut être un bel enrichissement aussi, comme vous parlez de tout âge confondu, avec une personne de plus d'une certaine expérience, un certain bagage, et puis une personne plus jeune qui, elle, va amener de la créativité ou du dynamisme.
Transfert de savoir. Et les firmes surtout s'intéressent à ça parce qu'ils ont beaucoup de personnes qui sont proches de la retraite, qui sont encore passionnées mais qui ont moins de force parfois et qui aimeraient transférer leur savoir à des gens plus jeunes. Et là, on parle du job sharing intergénérationnel.
C'est super intéressant. Je propose juste une petite pause. On est rattrapé par ce qui nous fait vivre et puis on parlera de cet ouvrage qui est fort intéressant. Vous étiez pas moins de 34 à collaborer pour écrire cet ouvrage.
Oui, de 5 pays. 5 pays européens.
Incroyable.
Oui.
À tout de suite.
que du bonheur.
On parle de job sharing aujourd'hui. Nous sommes accompagnés par Irenka Krohn-German et Corinne Emonet. Un ouvrage qui vient de sortir, un ouvrage collectif qui a été écrit par 34 auteurs dans 5 pays, dont vous, Irenka, et vous l'avez co-dirigé avec Monsieur Guénette. Cet ouvrage s'appelle Le partage d'emploi job sharing. Au préalable, peut-être, quelles sont les comparaisons qu'on pourrait faire entre tous ces pays et la Suisse?
Très bien. La Suisse, si on la compare à l'Allemagne déjà, est pratiquement au même niveau. On a nos partenaires qui sont à Berlin, Tandem Employ, qui sont très actifs comme nous dans la promotion du partage d'emploi. Et on peut le dire statistiquement, c'est à peu près un quart des entreprises qui ont déjà du partage d'emploi, dans un quart à position cadre. On a fait une enquête nous-mêmes.
Donc ça, c'est ce qu'on disait, les tops.
Oui. Les tops. On retrouve des mêmes taux en Allemagne aussi. Ce qui est très différent aujourd'hui, c'est le côté digital, c'est-à-dire que l'essor est plus grand. C'est beaucoup plus facile de pratiquer un job sharing aujourd'hui pour la transmission de l'information, pour la découverte du partenaire aussi, puisqu'on peut se trouver par des plateformes dans la nôtre et dans celle à Berlin, Tandem Employ. Par rapport à des pays en transition comme la Hongrie, l'auteur qui a écrit l'article pour notre ouvrage démontre les difficultés dans un pays qui a beaucoup de chômage, où la situation de base est déjà très différente, mais où il y a une volonté des femmes aussi d'avoir des nouvelles formes de partage d'emploi. Et puis après, si on compare avec la Grande-Bretagne, là, eux, ils sont nettement plus en avant. On avait notre partenaire aussi au colloque à Fribourg, qui est venu, Sarah Hill, d'une organisation qui est très active depuis 5-6 ans. Alors eux, c'est vrai qu'ils essayent de promouvoir ça de manière active, et ils en ont un petit peu plus que chez nous. Ça s'ouvre. Et la France, là, c'est le moins bon modèle, puisqu'ils ont une loi sur le travail qui est très figée au niveau des forfaits de jours de travail. Et l'une des journalistes qui a écrit l'article pour notre livre décrit très bien dans son papier les difficultés d'avoir un marché plus flexible, mais la volonté qui existe parmi la population de travailler.
Alors moi je pense justement que les Français seraient assez ouverts d'esprit, étant donné qu'ils prônent quand même peut-être un temps de travail plus restreint, donc du coup ça permettrait justement de partager des postes.
Alors l'ouverture d'esprit est là, c'est la question plutôt de la loi. Au niveau légal.
Vous, la législation,
au moins de la loi sur le travail était sortie en France. Et le problème qu'ont beaucoup de personnes, c'est que c'est beaucoup plus légiféré que chez nous. Nous sommes en Europe, dans une comparaison européenne, l'un des marchés économiques les plus libéraux. On peut être comparé aux États-Unis pour ça. Et c'est ce qui permet d'avoir beaucoup plus de temps partiel. Nous sommes en deuxième position au niveau européen après les Pays-Bas, avec le taux de travailleurs à temps partiel le plus élevé.
Est-ce qu'on pourrait dire
un tiers du marché du travail, quoi. Donc plus de 30%, dont 60% de femmes travaillent à temps partiel. Et des femmes extrêmement qualifiées, puisque les femmes qui ont un niveau universitaire sont de 62% à travailler à temps partiel. Mais le problème, il faut le répéter ici, le temps partiel est fascinant pour la conciliation, mais c'est un frein à la carrière. Ça peut être aussi parfois utilisé. Les syndicats le redisent, le rappellent toujours. Donc il faut optimiser le temps partiel, d'où notre nom, Part-Time Optimization, d'optimiser en fait les conditions d'hommes et de femmes à temps partiel en leur permettant d'accéder à des postes plus intéressants.
Un travail de longue haleine qui... Mais ce qui m'a surprise tout à l'heure, on discutait hors antenne, vous m'avez dit, ça fait 40 ans qu'on parle de job sharing. Donc
Oui. C'est une économiste, Barney Osmed, qui a publié dans une revue scientifique en 1977 son premier article.
Et vous étiez surprise que c'était une femme.
Oui, c'était un homme. Là, on a pu enfin retrouver ces personnes aux États-Unis. Ils sont en Californie, à Berkeley. On espère les avoir prochainement pour le prochain colloque qu'on organise à Bâle. Et pourquoi, en fait, pendant des années, ce modèle a été promu? Parce qu'il y avait une réflexion déjà à cette époque. Mm-hmm. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est l'évolution. Et c'est ce qu'on décrit dans l'ouvrage collectif, pour revenir un petit peu au livre. On parle de toute la nouvelle donne au niveau de la digitalisation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je l'ai fait moi-même pendant 9 ans déjà, on peut travailler en job share de n'importe quel endroit. C'est out of space, comme on dit, dans des coworking ou à la maison. Et on a un contact direct, non-stop, par tous les moyens de communication. Plus, on peut trouver des partenaires pour postuler ensemble par des plateformes, par des profils, ce sont des algorithmes qui permettent aussi après d'être... je dirais, plus à même de travailler comme ça.
À quelque part, c'est ce que vous avez fait, vous, Corinne. Vous disiez, je suis arrivée à un moment donné dans ma vie où je voulais réimaginer mon travail. Donc, vous avez dû utiliser une plateforme. Comment vous avez fait?
Alors, en fait, c'était... je dirais, l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on a une plateforme qui s'appelle wejobshare.ch, donc qui, en fait, permet de chercher et trouver son partenaire. Lorsque moi, j'avais recherché ma partenaire en job sharing, je n'avais pas accès à cette plateforme, donc j'avais utilisé principalement mon réseau et également l'outil LinkedIn. Donc, c'est sûr qu'il faut, beaucoup de détermination et puis on parle autour de nous, parler de notre projet professionnel pour ensuite pouvoir trouver quelqu'un qui partagera le projet professionnel, son objectif, et ensuite pouvoir éventuellement créer un binôme.
Ouais, c'est ça, ça me fait penser un petit peu à des plateformes de rencontres, mm-hmm. de sites de rencontres, où en fait, il faut vraiment trouver la personne qui colle.
Oui.
Ça, c'est pas facile.
Oui.
C'est pas donné d'avance. Hein.
Non.
Alors, les critères, je dirais, de base, vraiment, pour un duo performant et opérationnel, c'est déjà d'avoir un objectif professionnel en commun et des valeurs aussi communes. Et lorsqu'on rencontre son partenaire potentiel, dès le début, il faut qu'il y ait une certaine alchimie personnelle qui passe, un courant qui passe. Si on se rend compte dès le début qu'il y a peut-être des différends ou qu'on a voilà quelques petits soucis au niveau de la personnalité, c'est peut-être mieux de chercher une autre personne. Et après, il faut aussi avoir certaines compétences interpersonnelles, notamment être ouvert d'esprit, avoir une capacité aussi à donner et recevoir du feedback, pour éviter en fait d'arriver à gérer des conflits, également d'être aussi vouloir en fait être dans la communication, très important, le partage aussi d'informations, et puis s'aider à se co-développer. Ça veut dire que on a en fait au sein d'un duo des expériences et des compétences qui peuvent être similaires mais aussi complémentaires, et le duo va en fait constamment en fait s'aider dans son co-développement, parce que ce qu'on recommande, c'est à la fin de l'année, une évaluation commune du duo professionnel.
Et ce que disait Corinne très bien par rapport à ce côté complémentaire ou similaire, quand on a créé cette plateforme avec Mirko Imbert, qui est donc sur Fribourg, cofondateur de WeJob chez Sarl, c'était vraiment une grande question dans les profils, parce que ce sont des algorithmes. Hein. Toutes les plateformes de partenariat, ce sont des algorithmes qu'on met ensemble.
Sérieux.
Pour pouvoir permettre, oui, pour pouvoir permettre de matcher, parce que l'histoire, c'est qu'on vous introduisez vos données, voilà, vous en tant que journaliste, je cherche un ou une partenaire, et après on essaie de voir ce qui convient. Alors la question, c'est est-ce qu'on va de manière exhaustive demander beaucoup de détails, ou est-ce qu'on laisse un petit peu un champ d'action plus ouvert, parce que la différence dans un duo est extrêmement intéressante aussi pour postuler.
C'est une richesse.
Parce que là, vous avez une richesse et vous vendez beaucoup plus. Quand on est en phase de postulation, ben Corinne des HR connaît ça très bien, il faut vendre un paquet double avec une double compétence. Donc tout ça fait que cette plateforme aujourd'hui, ça fait depuis 6 mois qu'elle est en ligne, elle est peaufinée pour voir comment sont les matchs. Nos partenaires à Berlin qui font ça depuis 2 ans sont déjà très en avant, beaucoup, beaucoup de profils, beaucoup de duos déjà créés, et on voit là que ça fonctionne, que les gens se cherchent.
Donc vous pouvez en fait bénéficier de leur savoir-faire.
Oui, on est toujours, ce sont nos partenaires, et c'est eux qui nous ont conseillé aussi dans la mise en œuvre. Oui.
Ce qui est intéressant de voir aussi, j'étais farfouillé un peu dans votre bouquin et autres, c'est que le nombre d'hommes à temps partiel croît chaque année.
Oui.
ouais, parce qu'à quelque part, on avait l'impression que longtemps, il y avait quand même une sorte de un côté réfractaire peut-être de la part des entreprises. Est-ce que l'écart entre hommes et femmes s'amenuise? Est-ce qu'on est vraiment sur une lancée où l'homme va pouvoir lui aussi adopter ce mode de fonctionnement pour profiter justement quelque peu à côté de sa famille ou autre, de ce qu'il a envie de faire, jouer au golf, j'en sais rien.
L'écart actuellement est de 44%, donc ce sont 16% d'hommes à temps partiel d'après les statistiques officielles en Suisse, et ça, elles sont justement à 59% de femmes aujourd'hui. Alors l'une des plus belles campagnes en Suisse, c'est Tile Siteman, Andy Kill, qui a aussi écrit avec son collaborateur un article. Ils sont 3 hommes à avoir écrit ça dans l'ouvrage collectif. Aussi Mena.ca, qui sont maintenant en Romandie, Men Care, et c'est un travail magnifique qu'ils ont fait. Donc la progression, comme vous l'avez très bien dit, Caroline, elle est vraiment plus forte chez les hommes que chez les femmes, mais la différence au niveau des chiffres est encore trop grande à ce stade. Donc ils se rapprochent, donc on essaie d'avoir un gap un petit peu plus petit, mais c'est un travail de longue haleine. En Romandie, la nouvelle antenne va permettre aussi de diffuser ça. Et c'est ce qui permet de voir aussi que beaucoup d'hommes qui rêvent de faire ça, mais qui n'ont pas eu la possibilité, osent plus faire le pas aujourd'hui.
Si on devait expliciter de manière très claire, parce qu'on parle de job sharing, et puis après, vous avez cité le temps partiel,
oui.
on aura facilement tendance à les confondre. Là, c'est Corinne qui s'y colle.
Oui, alors, déjà, là, peut-être un commentaire. Là, je vais parler de mon expertise ressources humaines. En tant qu'employeur, souvent, le manager a peur, en fait, de perdre un pourcentage de temps de travail. Donc, en fait, souvent, il y a une réticence, des fois, à offrir un temps partiel. Parce que quand on offre un temps partiel, un 80 ou un 70%, on va perdre souvent ce 20 ou 30% du taux d'activité. Mmh. Le job sharing, ça veut dire qu'on va conserver un temps plein, mais ça va être deux personnes ou voire plus dans certains cas qui vont partager en fait ce temps de travail, donc avec des tâches interdépendantes mais une responsabilité commune. Donc ça c'est un grand avantage, je dirais, pour l'employeur. Donc c'est pour ça qu'on a, on va dire, cette différence entre job sharing et temps partiel.
C'est important de le souligner.
Oui.
Après, est-ce qu'on peut envisager qu'une personne fasse deux job sharing, par exemple, deux fois?
Magnifique, c'est du slash. Nouveau un terme anglais, on passe dans slash. Ça vient de la barre oblique sur l'écran informatique. En fait, c'est la toute grande nouveauté depuis presque 10 ans aujourd'hui, c'est les carrières multiples, les slash careers, qui vient aussi d'une économiste américaine qui a lancé un livre il y a presque 10 ans aujourd'hui, qui devient en Suisse maintenant de plus en plus intéressant. Ce sont toutes ces personnes qui ont 2-3 jobs en parallèle, à temps partiel. Par exemple, moi je le fais, je suis donc au SECO dans le milieu international et à côté comme indépendante. Beaucoup le font pour des raisons culturelles, ils sont musiciens, ils sont artistes.
Mais on le fait, je crois, un peu même plus que, ça fait pas que 10 ans si on réfléchit bien. Sur le fond.
Exactement. Mais la formalisation un petit peu du terme et de la manière de pratiquer, grâce à la flexibilisation, parce qu'avant, c'était beaucoup plus difficile de négocier un temps partiel dans une entreprise. Donc, c'était un peu moins facile d'avoir 2 casquettes. Mm-hmm. Et le slash devient l'un des critères d'intérêt pour beaucoup de gens au sein des entreprises, pour le job sharing aussi. De maintenir un très bon poste à 2 et de faire encore autre chose en parallèle. Et après, le terme que Corinne a décrit avant, c'est la conciliation, il faut le rappeler, vie familiale, vie professionnelle. Mm-hmm. Beaucoup font ça aussi pour cette raison-ci. Mais c'est vrai que c'est devenu aujourd'hui plus la génération plus jeune, Y, Z, elle aspire beaucoup à ce type d'activité.
On va revenir justement sur ces jeunes générations. Une petite pause et on revient.
Radio Fribourg, c'est que du bonheur.
On parle de job sharing ce matin avec Irène Cacron-German et Corinne Aimonet. On a eu l'occasion avec vous d'aborder cet ouvrage qui vient de sortir, que vous nous proposez, le partage d'emploi job sharing. Il faut également mettre en exergue, et vous le faites justement dans cet ouvrage, l'ère de l'économie digitale, les attentes spécifiques des nouvelles générations. Alors peut-être 2-3 mots sur ces attentes, quelles sont ces attentes, et puis après intergénération, comment ça match ou pas.
Lorsqu'on fait des sondages d'opinion des générations Y et Z, hein, donc si on regarde ces cohortes de population...
Pour rappel peut-être,
oui,
les Y, alors,
ce sont
les années...
celles qui sont nées en 60... Alors ça commence de 81 jusqu'en 99 pour génération Y et de 2000 jusqu'aujourd'hui pour la fameuse génération Z, nos adolescents. Et c'est vrai que quand on fait des études sociologiques, on voit ce qu'ils aspirent. Donc ils aspirent beaucoup moins à faire une carrière souvent, mais à faire ce qu'ils aiment faire. Et ça c'est un terme qu'il faut... Il faut en parler, c'est de travailler, mais de travailler dans une motivation
pour le plaisir. Humaine.
Oui, mais pour un plaisir qui soit aussi d'engagement. Par exemple, tous les aspects éthiques, durabilité, tous ces thèmes environnementaux sont des thèmes qui leur tiennent beaucoup à cœur. Et les grandes entreprises nous le disent, ils cherchent à changer cette donne-là. Donc, ils sont très engagés. Ils ont parfois, on les catégorise un petit peu comme des gens qui ont envie de moins travailler. C'est faux, à mon avis. Je pense que c'est des gens qui sont très engagés, mais pour des causes spécifiques. Mm-hmm. Et ils ont aussi envie d'une conciliation. Et ça, c'est vrai. Ils ont une conciliation entre différentes choses. Pas seulement des hobbies, mais d'autres engagements dans des ONG, dans des choses qu'ils aiment faire. Et les entreprises sont aujourd'hui très stimulées par ça. Elles doivent changer leur donne. Et les grandes multinationales en Suisse, qui nous contactent parfois pour ce modèle de job sharing, nous le disent. Ils doivent changer la donne. C'est presque une génération qui remet en cause beaucoup de choses. La hiérarchie, déjà le terme holacratie, hein, de tout mettre au niveau horizontal, est typique de ces générations-là. D'arrêter dans un mode de fonctionnement hiérarchique et de revoir toutes les donnes de la structure de l'entreprise. Et dans l'ouvrage collectif, on parle donc avec le professeur Alain Max Guénette qui a initié tout ça après le colloque à Fribourg il y a 2 ans. On parle vraiment de ces aspects-là.
Ce qui est intéressant, c'est de voir à quelque part, ils ont besoin de reconnaissance, mais en fait, qu'on les accepte dans leur mode de fonctionnement et qu'on les encourage aussi, qu'on reconnaisse leurs valeurs, qu'on reconnaisse ce qu'ils sont capables de faire, même s'ils sont encore adolescents. Mm-hmm. J'entends ça quand vous me parlez de ce mode de fonctionnement.
Alors, ce qui est génial, c'est que le job sharing va permettre tant à un jeune qui souhaiterait peut-être continuer à être formé, de pouvoir avoir une activité à temps partiel dans un job sharing, un poste intéressant, mais aussi, comme le décrivait Irenka, de pouvoir s'adonner à différentes activités, donc travailler pour une entreprise et peut-être à côté avoir son activité indépendante ou travailler pour une ONG. Donc ça permet en fait beaucoup de possibilités qui n'existaient peut-être pas avant. Et c'est vrai que les entreprises aujourd'hui doivent vraiment se remettre en question pour conserver, je dirais, leurs talents, mais aussi attirer les talents de demain. Mm-hmm. Et c'est là qu'on voit qu'il y a vraiment aujourd'hui cette ouverture et cette envie d'implémenter des modèles en fait différents, notamment de job sharing au sein des entreprises.
Ou le slash, comme vous disiez tout à l'heure.
Oui, tout à fait. Et le grand thème, c'est aussi ce qu'on appelle, dans ces termes un tout petit peu toujours de software, le travail 4.0, donc tout ce qui est l'automatisation. Et là aussi, d'avoir des structures où on n'est plus du tout figé à un poste de travail. On le sait, on travaille. Moi, j'ai fait beaucoup de télé-work moi-même. On n'est plus dans des espaces qui sont conservateurs comme avant. On travaille de n'importe où. Et la génération qui suit, et génération Z, là, vraiment la plus grande, qui est née avec ça, qui maîtrise ça mille fois mieux que nous, à une rapidité qui est incomparable. Donc,
c'est
cette génération-là. Oui, mais cette génération-là, elle va créer, c'est ce qu'on dit, ce sera une creative generation, elle va créer tellement de choses dans une rapidité qu'on n'aura jamais eu avant, et on doit déjà penser, anticiper quels seront les modèles de travail du futur pour cette génération-là.
Il y a une grosse différence entre les Y et les Z ?
Alors, déjà une chose, ces catégories, il faut faire un petit peu attention.
Ouais,
à mon avis, il faut toujours être clair, même génération X, baby boomers, toutes ces générations-là, il y a des individus qui fonctionnent de manière très avant-gardiste aussi. On le voit quand on thématise le job sharing, les gens qui sont baby boomers viennent chez nous, génération X viennent chez nous aussi. Ce n'est pas du tout déjà des étiquettes qui sont figées, c'est des tendances. Et ces tendances sont très, très fortement évaluées parce qu'on doit répondre aussi à une demande du travail. Et c'est pour ça que les gens ont peur, surtout qu'ils quittent l'emploi avant même qu'ils aient pu montrer ce qu'ils savent faire. Donc pour rendre attractif l'entreprise, on essaie d'anticiper ça. Mais à travers la génération, et comme a dit Corinne avant, il y a des aspects fondamentaux de synergie. Et avec un job sharing intergénérationnel, on arrive à les mettre en valeur.
Vous auriez peut-être des exemples à donner justement de job sharing intergénérationnel ?
Oui, alors on a fait, dans l'ouvrage collectif, l'un des articles démontre ça. C'est une personne qui a fait une recherche sur des cas au niveau intergénérationnel. On compte 10 ans de différence entre les générations pour parler d'une relation intergénérationnelle. Et elle décrit que presque 97% de ces couples disent avoir profité dans les deux sens. Pas seulement le transfert de capacités technologiques depuis le bas vers le haut, mais le transfert aussi d'une certaine forme de pensée du haut vers le bas. Et ça, on le voit dans différents cas qu'on a pu observer. On en a dans l'enseignement, on a sur notre site un témoignage très beau de professeurs qui ont 18 ans d'écart et qui racontent que c'est magnifique parce que l'un apprend de l'autre.
Après, il y a des métiers qui se prêtent plus volontiers justement à ce partage.
Alors, c'est vrai que c'est une question où il y a souvent, en fait, on est même assez souvent challengé sur cette question-là. Alors nous, la réponse un petit peu qu'on a, c'est pas réellement un domaine d'activité ou un métier, c'est vraiment en fait la forme d'organisation, de communication au sein du duo qui va permettre en fait d'être performant dans son poste. Donc pour nous, en fait, il y a vraiment des métiers, même je dirais dans le domaine médical, par exemple des chefs de clinique ou qui partage vraiment un poste en job sharing et où tout se passe très bien, et ça va plus en fait être attrait à la personnalité, aux compétences organisationnelles et interpersonnelles de ces du duo en fait.
Et c'est un point fondamental, et c'est ce qu'on rappelle entre guides aussi, le job sharing n'est pas fait pour tout le monde. Il y a certains prérequis qu'il faut avoir, et entre autres justement cette ouverture d'esprit à la critique. Il faut aussi la confiance. Travailler à deux, c'est avoir un objectif commun, être évalué aussi ensemble. Pas toujours facile parce que il y a quand même des petites différences. Et comme tu le disais, je pense c'est fondamental d'avoir ça à l'esprit. Et certains secteurs, la médecine, mais par exemple la psychiatrie aussi, on pensait que c'est pas possible de co-gérer une psychothérapie, ça se fait de plus en plus, même dans les teams médicaux qu'on a aujourd'hui.
C'est même un enrichissement, j'ai envie de dire, quelque part.
Oui. Et rappelons-nous, il y a 30 ans en arrière, les premiers couples en job sharing dans les écoles primaires, les professeurs, moi j'ai grandi au Schoenberg, donc je me rappelle la peur.
Vous savez de quoi vous parlez.
Non, mais la peur qu'avaient les parents à l'époque, que tout d'un coup il y a un prof en job sharing. Maintenant, mes enfants, mes trois enfants, tous ont pratiquement eu des professeurs en job sharing. Presque 50%. Donc au début, la peur. Après, il faut toujours essayer d'expliquer, de rassurer les gens, rassurer. Et après, ça démarre.
Et on a également de beaux exemples en fait de duos professionnels en job sharing qui ont vraiment des relations avec leurs clients en fait, et on voit que à nouveau l'organisation au sein du duo va vraiment permettre cette satisfaction en fait des clients, vraiment de beaux exemples. Ça peut être même dans le domaine bancaire où il y a aussi toujours ce côté de confidentialité. Donc c'est vrai qu'on teste aussi ce modèle dans des postes, je dirais, aussi plus complexes en fait.
Je l'ai pas dit avant, mais si jamais il y a des auditeurs auditeurs ou des auditrices qui veulent poser des questions, vous pouvez utiliser le WhatsApp au 079 127 70 60 concernant le job sharing. Moi, j'avais quand même un petit doute, une petite crainte. Je me disais, mais en fait, en faisant du job sharing, parfois, quand on a un temps partiel, on a tendance à donner plus que notre 50% ou notre 80%. Et puis, du coup, si on en cumule plusieurs, on va se retrouver à travailler à 150%. Est-ce qu'il n'y a pas une...
Oui, très important. Et dans l'ouvrage collectif, deux contributions sont très critiques. L'une des syndicats, Travail Suisse, et l'autre d'un bureau d'égalité aussi, en rappelant que la haute flexibilité du travail incite aussi à des abus, hein, et qu'on peut avoir des situations où les gens travaillent plus de ce qu'ils sont payés. Et c'est un thème qui est aujourd'hui beaucoup discuté aussi par rapport au type de temps partiel. Par exemple, des femmes qui travaillent un taux très réduit par rapport au deuxième pilier, ça peut être très très dangereux à moyen terme, parce que c'est une forme quand même qui est moins optimale, hein, au niveau économique, au niveau du salaire. Et l'autre article qui a été écrit traduit aussi que ça reste quand même du temps partiel et qu'on pourrait s'imaginer qu'à long terme, le job sharing va quand même plus concerner de femmes que d'hommes. Donc qu'il n'y aurait pas une grande différence dans le futur pour égaliser ce problème-là. Et là, on espère justement que les hommes, par les modèles de top sharing surtout, hein, commencent à cerner que c'est aussi pour eux. Et c'est ce qui se produit aujourd'hui. On voit qu'il y a un intérêt. Mais c'est vrai que ces problèmes-là sont très importants à mentionner.
Il faut toujours les garder à l'esprit.
Tout le temps.
Éviter de se faire prendre.
Oui, oui.
Vous-même, vous que vous le pratiquez, quels sont les conseils que vous donneriez si on veut être sûr justement de ne pas se surexploiter soi-même à quelque part?
Alors je pense, bah déjà, ce sera vraiment une communication au sein du duo par rapport déjà aux objectifs. Donc quel type de job sharing? Est-ce qu'on va être dans un modèle plutôt hybride ou pur? Donc là, je vais m'expliquer. Donc ça va dépendre plutôt des postes. Donc un modèle hybride, on va quand même se partager certaines responsabilités ou certains objectifs, tout en, je dirais, communiquant en fait sur l'avancée de notre travail. Et je dirais toujours aussi être conscient des heures qu'on va effectuer. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que deux personnes qui vont en fait travailler en job sharing seront plus productives qu'une personne qui travaillera dans un 100%, par exemple. Donc ça, c'est aussi un grand avantage pour un employeur. Voilà. Il y a aussi encore bien d'autres avantages. C'est que l'employeur va bénéficier de deux sets de compétences et d'expérience, en fait. Donc, je dirais, deux têtes pensantes pour le prix d'une, comme on dit, sur notre site. On a aussi ce qui est souvent en fait un avantage et qui est mentionné régulièrement par les managers ou la direction, c'est qu'il y a en fait au sein du duo déjà des discussions, un brainstorming sur des sujets ou des décisions importantes. Donc le duo va en fait avoir une prise de décision qui sera plus aboutie, plus efficiente. Donc ça, c'est un autre grand avantage. Les employés sont souvent aussi beaucoup plus motivés, loyaux, donc on va rester plus longtemps dans un poste en job sharing que peut-être dans un poste à temps partiel simple ou à 100%. Et puis ça permet aussi à l'entreprise d'avoir une image avant-gardiste et va vraiment contribuer à sa marque employeur.
Donc quand on travaille en job sharing, on a aussi l'obligation d'avoir des moments où on se retrouve ensemble.
Oui. Oui. Alors ça se passe comme ça souvent. Donc vous avez une petite marge de temps durant la semaine. Donc là où on vend bien sûr le modèle, c'est parce qu'on est là du lundi au vendredi à deux. Hein. Donc ça, c'est par rapport au temps partiel de grand intérêt pour l'employeur, parce que il a pas ce problème où un jour il veut parler avec quelqu'un et elle est pas là, puisqu'il a toujours ce duo qui est à sa disposition. Et souvent, c'est le cas chez moi. Donc on a toujours une petite matinée où on peut s'échanger, où on travaille en parallèle. Donc, on ne fait pas que de l'échange, bien sûr, mais on travaille en parallèle, et là, on peut encore se voir. Mais très souvent, l'échange se fait par des moyens virtuels. Aujourd'hui, c'est très rapide, même quand vous prenez une décision dans un meeting, vous avez tout de suite votre partenaire qui vous envoie quelque chose et qui vous rajoute un point encore. Donc, ça rejoint le point de la flexibilité. Quelqu'un qui est en job sharing sera peut-être plus toujours dans son travail qu'un travailleur à temps partiel qui délimite parfois plus fortement.
Qui est obligé de délimiter, ouais.
Parce qu'on a le partenaire qui est toujours à l'arrière-plan avec qui on communique, quoi. Donc ce sont aussi des gens qui s'intéressent surtout à l'objet, donc à la finalité. Et ça, c'est une grande différence qu'on doit aussi rappeler aux gens quand ils s'intéressent au modèle, que c'est quand même donner un petit peu plus, parce que c'est ensemble qu'on travaille.
Mm-hmm. Ça, c'est important de le souligner.
Mais un autre avantage aussi, quand on est dans un duo, par moment, on est challengé sur une question. Et en fait, c'est vraiment agréable de pouvoir en discuter avec son partenaire. Et en fait, c'est presque rassurant, je dirais. Et ensuite, voilà, on va revenir auprès de notre direction, notre management, avec peut-être en intégrant, je dirais, des points de vue auxquels nous seuls, on n'aurait pas pensé. Et puis, ce que disait Irenka tout à l'heure, donc l'avantage ou la différence avec un taux partiel, c'est qu'on a donc une présence continue sur la semaine, mais également sur toute l'année. Parce que quand une personne est en vacances ou absente, ça veut dire que l'autre personne sera là, même à 50 ou 60%, mais ça va permettre de répondre aux urgences, de gérer les priorités. Donc ça, c'est un grand avantage aussi.
C'était un point très très important, la solitude du chef, c'est ce qu'on nous a dit souvent, c'est là où on voit dans le top sharing, on a différents témoignages sur notre site où on voit très bien de grandes firmes qui décrivent ça un tout petit peu, cet échange permet de se sentir beaucoup moins seul, surtout si on acquiert un poste plus élevé où tout d'un coup la concurrence commence à changer et les gens parlent beaucoup moins ensemble. Mm-hmm. Et beaucoup de chefs qui ont fait du top sharing nous ont dit que c'était ça la chose la plus fascinante, d'avoir quelqu'un au même niveau qui est très sincère, où il n'y a aucune concurrence, parce que tout le reste, il y a toujours une concurrence dans un team.
Oui,
dans un job, comme on est évalué ensemble, il ne peut plus y avoir de concurrence. Et c'est une très, très grande différence. Et là, c'est ça qui amène les gens à travailler à deux, voire parfois même à trois.
Ce qui est intéressant, ouais, c'est vrai, parce qu'autrement, on peut, comme vous disiez, se sentir seul. Et puis, parfois, on a besoin d'un retour, de savoir est-ce qu'on est dans le juste. Pas... Enfin, voilà. Ce retour est très important. Donc, deux têtes pensantes, comme vous le disiez. Un petit tour en musique avant de revenir vers vous et de terminer notre entretien. Donc, tout ce qui est à dire devra être dit juste après cette chanson de Bombay Street 77, Bombay Street. 77 Bombay Street. Et ce matin, nous sommes avec Irenka Krohn-German et Corinne Aymonet. On parle de job sharing. Vos questions, WhatsApp 079 127 70 60. On y répondra juste après notre émission, si vous en avez. Et puis là, ben, dernière ligne droite avec vous deux, mesdames. Je crois que vous avez des events qui arrivent tout soudain, que vous avez envie de mettre en avant. C'est l'occasion justement pour tout un chacun d'aller à votre rencontre et d'en savoir un peu plus sur ce job sharing.
Oui. Alors nous organisons donc conjointement en fait avec une autre personne, j'organise donc le prochain meet-up à Lausanne le 15 mai. Alors c'est un magnifique événement qui avait déjà été organisé le premier à Fribourg, qui avait en fait rencontré un franc succès avec 80 personnes qui avaient participé. Donc l'idée c'est vraiment de présenter le modèle, mais ça c'est rapidement. Ensuite d'avoir des tables rondes de discussion autour de la thématique job sharing. Et à la fin on organise un speed dating professionnel. Donc ça peut permettre en fait à des couples professionnels de se former durant cette soirée. D'ailleurs c'est un de nos objectifs. Et puis là on travaille avec quelques partenaires en fait qui nous soutiennent. Ce qui est absolument aussi très encourageant et génial, c'est que le job sharing, aujourd'hui, on le voit, hein, des grandes firmes, que ce soit des sociétés internationales, des sociétés dont les télécommunications bancaires, des administrations communales s'ouvrent. Et là, on va le rappeler, il y a environ un quart des entreprises qui le pratiquent. Et souvent, en fait, c'est quelque chose qui est des fois peu connu. Donc, s'il y a encore des entreprises qui souhaiteraient être nos partenaires pour cet événement du 15 mai à Lausanne, ouais. Vous pouvez sans autre nous contacter, ce sera avec plaisir qu'on va entrer en matière.
Et tous ces meet-ups se font dans des co-working spaces, donc c'est partie de tiers-lieux, comme on dit en français. Ce sera à Espace Dickens à Lausanne, on l'a fait à Zurich aussi, à Impact Hub, on l'a fait à Berne, dans Vélesset, chaque fois avec beaucoup de personnes qui sont venues. Donc des choses qui ramènent aussi des gens dans un questionnement aussi sur le travail, donc de tous les niveaux, de tous les âges, toutes les formations.
C'est intéressant. Suite à l'événement de Fribourg, vous avez eu des duos qui se sont formés,
oui,
des couples.
Oui, oui. Le soir même, on a fait une sorte de petite récompense aussi. C'est les premiers couples qui se sont formés après le speed dating. Après, ils postulent, ils essaient de trouver un emploi. Ça, c'est aussi un point important. Sur notre site de partenariat, il y a une première phase de mise en lien des gens. Et après, aussi, on montre aussi où ils peuvent postuler. Parce qu'on peut postuler, en fait, à n'importe quel poste, à 100%, à deux. Et ça, on le montre aussi par une série d'entreprises.
Vous les soutenez justement dans cette démarche.
Oui, et là on arrive dans le coach, donc c'est nos instruments de PTO, donc on travaille dans des meet-up, des colloques, et on fait des workshops au sein des entreprises. On nous a contactés durant l'automne passé à plusieurs reprises, pas seulement pour les gens qui s'intéressent au job sharing, mais aussi pour les cadres intermédiaires, pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne, et comment est-ce qu'eux doivent aussi s'ouvrir. On l'a fait dans différents secteurs qui étaient vraiment intéressés par ce thème, et on le fera dans le futur. Et le coaching aussi de duo, où on accompagne dans... Plusieurs entreprises nous ont contactés pour accompagner les duos. Ça peut durer parfois 4 heures, ça peut durer 8 heures, tout dépend un petit peu de la demande.
Après, petit à petit, vous avez acquéri vos lettres de noblesse, j'ai envie de dire. Ça fait combien de temps maintenant, Irenka, que vous êtes active, militante? Vous me le disiez, je crois.
Alors, on a démarré ce projet, il faut le préciser, c'était en 2014 avec Anne de Chambrier, et on a été soutenue, et j'aimerais le rappeler ici, par le Bureau d'égalité suisse, qui nous soutient financièrement. C'est en fait un financièrement une partie privée et publique qui nous soutient. Et là, on est de nouveau actifs dans une deuxième phase. Et on a la chance, et j'aimerais le mentionner aussi ici, après le premier colloque à Fribourg qu'on a fait en 2015, qui a été en fait le démarrage du livre aussi, le prochain colloque aura lieu au niveau international à Bâle au mois de novembre. Tout sera sur notre site donc d'information et sur notre plateforme.
Avec la personne que vous citiez tout à l'heure, qui est aux États-Unis à Berkeley.
On est en contact, on espère la faire venir ou l'avoir par Skype. Ce serait magnifique d'avoir quelqu'un qui a 75 ans aujourd'hui, qui a milité pendant 30 ans de sa vie pour ça, et voilà, ce serait très très beau. Oui.
Affaire à suivre. On arrive tranquillement mais sûrement au terme de cette émission. Rappelez que vous avez un site.
Oui, un site d'information pour employeurs et employés qui s'appelle go-for-sharing.ch et un site de mise en partenariat professionnel wejobshare.ch.
Puis en allant sur ces sites, on a toutes les informations qu'on désire. Dernière ligne droite, 30 secondes. Corinne, le mot de la fin pour vous,
oui.
Ce serait.
Alors écoutez, aidez-nous à créer le buzz. Parlez du job sharing autour de vous. Vous allez voir que plein de personnes ne le connaissent pas, mais qui seront intéressées. Et donnez vraiment à notre site internet pour toute question. Donc le go-for-jobsharing.ch.
Et oui, jobshare.ch. Quant à vous, Irenka, le mot de la fin.
Et j'aimerais vous remercier de votre intérêt, en tout cas d'avoir des personnes aussi comme vous qui s'ouvrent à ces thèmes-là. Donc c'est pour nous, c'est fondamental. Et un tout grand merci. À Radio Fribourg.
À une prochaine. Très belle journée à vous.